France Inter. .fr. Bonjour, le pianiste Thomas Enko est mon invité aujourd'hui. Pianiste de jazz de formation classique, il a quasiment toujours joué dans les deux registres, se faisant particulièrement remarquer dans le jazz. Mais Thomas Enko n'a jamais cessé de pratiquer son instrument dans le registre classique et c'est précisément avec la joueuse de marimba d'origine bulgare Vassilena Seramifova qu'il a enregistré cette année chez Deutsche Grammophon Funambule, un disque en duo dans lequel ils interprètent des chants traditionnels bulgares, des compositions originales, du rock, mais également des classiques allant de Mozart à Fauré, en passant par Bach et Saint-Saëns. Un disque très original qui nous permet d'aborder cet artiste par ce bout de la lorgnette, lui qui est le petit-fils du grand chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, fils de la cantatrice Caroline Casadesus, intime du violoniste Didier Lockwood et frère de David Enko, trompettiste de jazz bien connu, son aîné. Quelle vie dans la musique, Thomas Enko, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est même pas in utero hein, que c'est arrivé. On sent bien que c'est presque dans les gènes.
Ouais, même si ça ne me gêne pas. Ouais, ça y est, je commence les jeux de mots. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être né dans ce bain de musique classique puis jazz. En fait, ça fait très peu de temps que je me rends compte à quel point c'est exceptionnel.
Et riche, ouais, c'est vrai.
Et riche, ouais. Pour moi, c'était normal. Je pensais que c'était un peu pareil pour tout le monde, mais en fait, non. Et ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup inspiré. Puis surtout, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de frontières stylistiques, quoi.
J'allais vous poser la question juste pour démarrer. Un grand-père chef d'orchestre, une mère chanteuse lyrique, prendre la voix du jazz, c'est pas contestataire, mais en tout cas, c'est
ouais, mais pas vraiment, parce que mon grand-père, d'abord, adore le jazz.
Ça, c'est vrai.
Était passionné par le jazz. Il était d'abord percussionniste et batteur avant d'être chef d'orchestre. Et je sais que c'est quelque chose qui le fascine. Il adore les big bands, il adore Count Basie. Et puis ma mère s'était mariée avec Didier Lockwood quand j'avais 4 ans. Donc j'ai vécu avec eux, dans la maison de Didier, avec tous les musiciens qui passaient, toutes les séances de studio qui se passaient à la maison, jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Et comme j'étais d'abord violoniste, c'est comme ça que Didier a commencé à m'enseigner l'improvisation avec le violon.
Ah ouais. Ne racontez pas tout, quand même.
D'accord,
pas tout de suite. On va commencer par un des premiers souvenirs de votre enfance, la sonate Appassionata de Beethoven que votre père jouait, je crois, pour vous. Alors votre père était éditeur, il est éditeur.
Mon père était éditeur de livres.
Ouais.
Mais passionné par l'opéra et par le piano classique, et il a toujours joué du piano pour son plaisir, en amateur, en bon amateur. Et effectivement, quand j'étais bébé, moi j'aimais jouer avec les trains en bois Brio, vous savez.
Ouais.
Je sais pas si ça existe encore.
Si, si, bien sûr.
Et puis.
C'est pas une marque à l'antenne, mais c'est pas grave.
Ah, pardon, les trains en bois. En bois. Et puis j'allais parfois sous le piano faire passer le train. Et puis j'en profitais, surtout quand lui travaillait son piano. Et donc il jouait certains morceaux en racontant des histoires qu'il allait avec.
Tout en jouant.
Oui, mais alors, il faisait des petites pauses. Il commençait par exemple la Passionata, puis alors Do, La Fa, La, Do, Fa, etc. Il disait ça, tu vois, c'est la forêt.
Parce que c'est une des sonates les plus difficiles à jouer quand même de Beethoven.
Oui, alors il s'arrêtait à la 4e page, même s'il le dément. Mais il jouait le début. Et puis voilà, il faisait intervenir des personnages, il disait ça c'est un petit fan, ça c'est le méchant loup.
Ah oui, il imageait en fait, il essayait de raconter les notes par une histoire.
Exactement.
Et ça a pris chez vous ?
Ouais, c'était génial, je trouvais ça, j'étais complètement fasciné, pour moi c'était dingue. Après j'ai eu envie de faire du piano et j'ai eu envie aussi de raconter des histoires avec ça. Le premier morceau que je voulais travailler, c'était la sonate Appassionata.
Ah bah alors, avant qu'on écoute, vous nous racontez l'histoire que vous avez collée dessus. Comme ça, les auditeurs pourront imaginer votre
cette histoire-là, c'était l'histoire du faon et du loup, etc. C'était un peu l'histoire du petit chaperon rouge, mais au lieu du chaperon rouge, c'est un petit faon.
Finalement, tout se recoupe. On parlera tout à l'heure de votre dernier disque, où il y a deux petits chaperons rouges en illustration. La sonate numéro 23 en Fa mineur opus 57 de Ludwig van Beethoven, dite Appassionata, et ça s'entend grâce à cette interprétation très réussie de Donka Angacheva au piano et qui vous a plu, Thomas Enko.
Ouais, j'ai trouvé ça super, très clair, très rythmique, ça groove.
Alors, du coup, vous l'avez joué ou pas cette
oui,
sonate?
Bien sûr, plus tard. Alors, quand j'ai commencé le piano à 6 ans, je pensais que je pouvais jouer ça. Et donc, j'ai demandé à ma première prof de piano de me faire travailler. En fait, je savais pas que ça s'appelait la sonate Appassionata numéro 23. Moi, quand j'étais bébé, j'appelais ça le gros Beethoven.
Ouais.
Alors je lui ai demandé, je vais travailler le gros Beethoven.
Pourquoi le gros Beethoven? Parce que vous
parce
avez
que c'était
des
gros,
photos.
C'était non, ah, parce que c'était Beethoven et puis c'était un gros morceau. Quoi.
D'accord.
Et puis il y avait un gros loup, un gros cerf. Et bon, elle m'a dit non, il faut d'abord apprendre à jouer du piano. Et j'étais pas content, alors j'ai changé de prof. Et puis j'ai demandé aussi. Et
en fait, vous étiez un peu caractériel quand même.
Ouais, un peu. Et je crois que ma cinquième prof s'est dit que pareil. Elle allait pas faire long feu si elle ne m'avait pas travaillé le gros Beethoven. Donc finalement, je l'ai travaillé, je l'ai massacré et je me suis évidemment arrêté à la quatrième
mais
page.
Mais vous arriviez petit comme ça à pouvoir jouer toutes ces notes qui demandent quand même des grands bras.
Ah non, mais du coup, c'était pas. Du coup, c'était au bout peut-être de 3 ou 4 ans de piano que finalement on a accepté de me le faire travailler. Mais c'était affreux. Et en fait, c'est seulement bien plus tard, quand j'avais 13 ou 14 ans, que là, je l'ai travaillé toute la sonate et je l'ai joué.
Vous dites que ça groove.
Ouais, ça groove. Mais Beethoven,
dans il faut
que ça
groove,
en fait. Bah, c'est... Moi, j'aime dans la musique classique, et particulièrement chez Beethoven, chez Mozart, chez Bach aussi, j'aime que ça groove, c'est-à-dire qu'il y ait une pulsation rythmique très forte, qu'il y ait de la danse. Ça se trouve de façon plus évidente chez Stravinsky, chez Prokofiev, chez Shostakovich, mais en fait, les interprétations que je préfère, pour moi, les grandes interprétations des compositeurs vraiment classiques, ou même baroques, même surtout baroques, c'est quand ça groove, en fait.
On peut penser à Glenn Gould, qui serait peut-être le maître. Non, pour vous, ça
groove
pas ?
Ouais, ah si, Glenn Gould, ça groove grave.
Alors, votre mère, elle, Caroline donc Casadesus, était chanteuse, elle vous endormait avec une berceuse, je crois, de Strauss ?
Oui, tout à fait. Quand j'avais du mal à m'endormir, elle me chantait le Wiegenlied de Strauss.
Avec sa voix de chanteuse ?
Non, elle chantait pas trop fort.
Pour s'endormir, ce n'est pas forcément simple. Alors, c'est un chant d'ailleurs qui ressemble un peu à de l'hypnose, hein. C'est vrai, il y a quelque chose d'hypnotique, qu'il a composé en 1899, Richard Strauss, et qui fait allusion au moment d'extase qui a amené un bébé à la vie. C'est une berceuse extraite d'une rhapsodie qu'on appelle Érotique de Demel.
Ah ouais.
Vous connaissez les paroles de cette chanson ?
En fait, je connaissais pas l'histoire et je parle pas du tout allemand, donc là je vais découvrir tout ce que vous allez dire.
Alors, je vais essayer de vous trouver les paroles tout de suite. Voilà, les voici. Rêve, toi, ma douce vie, du ciel qui nous donne les fleurs, des corolles brillent dans l'herbe et se balancent au son de la mélodie que chante ta mère. Rêve, fleur de mon amour, de la nuit tranquille et bénie, où la fleur de son amour a changé pour moi ce monde en paradis.
Voilà,
c'est pas mal pour vous endormir, non ?
Ouais.
Thank you. Wiegenlied de Richard Strauss. Donc l'auteur de ce poème, c'est Richard Demel, et c'était Jesse Norman à la voix avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Kurt Masur. Alors qu'il y a une histoire particulière, Thomas Enko, parce que votre mère vous chantait pour les moments d'insomnie qui visiblement étaient quand même relativement nombreux, puisqu'elle confiait un disque à votre babysitter, ouais, lorsqu'elle n'était pas là, pour vous endormir sur le même air mais chanté par Jesse Norman.
Ouais.
Et ça fonctionnait.
Bah oui, ça fonctionnait mieux que si la babysitter essayait de le chanter.
Seulement tout. Alors, le piano à 6 ans, à quel moment, puisque votre beau-père Didier Lockwood était là depuis que vous aviez l'âge de 4 ans, à quel moment vous avez décidé d'aller vers le jazz? Ou est-ce que ça a toujours été finalement présent?
Bah, ça a été assez naturel parce que, en fait, quand j'avais donc à peu près 6 ans, ça faisait donc 2 ans que ma mère et Didier étaient mariés et qu'on vivait avec eux à la campagne. On a beaucoup déménagé dans plusieurs régions différentes autour de Paris pour s'établir en Seine-et-Marne, du côté entre Barbizon et Fontainebleau. Et là, ils ont eu envie tous les deux de monter une école de musique dans laquelle il y aurait du jazz et des ateliers jazz pour les enfants, etc. Et donc avec mon frère, ma petite sœur n'était pas encore née, Mathilde, donc il y avait mon grand frère David.
Qui est lui-même devenu trompettiste. Jazz. Ouais.
On a fait partie des tout premiers ateliers de jazz en fait du coin, dans lesquels il y avait des gamins de ma classe d'école en fait qui se mettaient à la musique parce qu'ils nous voyaient faire et qu'ils avaient envie. Et donc on a fédéré tous ensemble avec la famille un grand truc autour du jazz, d'improvisation, des ateliers de jazz et puis des petits concerts qu'on faisait dans les villages du coin. Et puis parfois de temps en temps une première partie d'un concert plus important. Et c'était donc moi je voyais pas tellement de... Enfin tout ça était assez entremêlé. J'avais mon prof de piano classique, mon prof de violon classique. Et puis pour le jazz, j'avais soit des profs pour le jazz, soit les cours d'atelier dans lesquels on apprenait tous ensemble à jouer des standards de jazz, du répertoire, de l'improvisation, etc.
Mais ce qui comptait en fait, c'était de jouer.
C'était de jouer et pour moi de composer aussi, parce que à partir de l'âge de 6 ans, j'écrivais des morceaux. J'ai commencé à vraiment les noter sur du papier à musique vers 10-11 ans et c'était plus naturellement du jazz parce que je laissais toujours de la place pour improviser.
Vous avez dit classique? Elsa Boublil sur France Inter.
Et puisqu'on parlait de vos compositions, Thomas Enko, je propose justement qu'on écoute l'une de vos compositions, extraite de votre album en solo, Feathers. Votre mère vous endormait en chantant et vous avez regardé visiblement quelqu'un dormir. C'est le premier titre de cet album, Feathers, Watching You Sleep. Une occasion de vous entendre jouer et de vous entendre à la composition.
Thank you.
On a envie de laisser la résonance au maximum. Watching You Sleep, Thomas & Co, extrait de votre album Feathers, sorti en 2015 et qui nous emmène justement sur ce terrain de la composition. On a l'impression, quand on écoute ce disque et quand on lit les titres, on lit aussi ce que vous avez écrit, bien sûr, dessus, parce que visiblement, vous aimez bien aussi écrire, que la musique a quelque chose d'expiatoire chez vous.
Oui, tout à fait.
Oui.
Je m'en suis rendu compte ces dernières années. C'était pas forcément le cas avant, mais en fait, il peut m'arriver d'avoir la sensation d'être gêné par quelque chose dans ma vie, dans mon quotidien, comme si je portais un vêtement trop petit, un peu. En fait, ça peut être un sentiment, quelque chose, une blessure amoureuse, un truc, enfin, quelque chose que je pense régler, qui n'est pas forcément. Et je me suis rendu compte que ces choses-là peuvent être très difficiles, en tout cas pour moi, à exprimer avec des mots, ou simplement parce que j'ai pas forcément le vocabulaire, ou alors par pudeur, ou voilà. Et qu'avec la musique, et notamment avec le piano, on peut faire vraiment ce qu'on veut, et on peut donner toutes les nuances possibles à un tableau, en fait. C'est plus facile, c'est plus complexe pour moi. Et surtout, ça permet d'être complètement impudique et de se livrer totalement sans avoir à expliquer.
Alors, le sens du coup du titre prend toute sa valeur aussi. C'est-à-dire que ça donne une indication. Dans le cas de ce disque-là, on sent bien « Watching You Sleep », on imagine bien que vous regardez quelqu'un que vous aimez, en tout cas, dormir.
Oui, tout à fait.
Donc, vous ne savez pas utiliser les mots, mais néanmoins, les mots peuvent être des indicateurs.
C'est ça. Après, c'est un choix... Qui finalement n'a plus grand-chose à voir avec la musique, c'est est-ce que je donne une clé à la personne qui écoute, que je ne connais pas, pour qu'elle puisse éventuellement pas comprendre mon histoire à moi, mais peut-être projeter la sienne dessus.
Et le moment expiatoire pour vous, Thomas & Co, c'est le moment où vous jouez le morceau ?
C'est le moment le plus expiatoire, c'est celui où je l'écris.
Ah oui.
Ouais, parce que j'écris dans des phases extrêmement solitaires. Dans le temps, c'est-à-dire des moments où j'ai vraiment le temps, où j'ai du temps sur des longues périodes, et plutôt très au calme, plutôt à la campagne, plutôt dans des endroits où j'ai de l'espace, où il n'y a personne autour, et où j'ai le temps d'aller vraiment où je veux. C'est-à-dire que si à un moment je ressens le besoin d'aller dans le mauvais goût le plus total, je m'en fous, j'y vais parce qu'il n'y a personne pour m'écouter. Et ça peut éventuellement libérer quelque chose. Mmh. Et de là peut naître une petite fleur qui va donner un morceau, ou qui va donner une bribe d'un morceau, une mélodie, quelque chose, un groove, qu'après je vais développer en morceau et lui donner une forme. Et cette forme, ce sera une espèce de boîte dans laquelle je vais mettre ce truc qui me gênait.
Et des mélodies toujours très présentes d'ailleurs dans vos compositions, Thomas & Co. Maintenant, on va écouter l'Adagio assai du concerto en sol majeur de Ravel.
Ah, c'est pas mal ça aussi.
Ça correspond à quoi dans votre vie ?
Ça, c'est quand je venais d'entrer au Conservatoire de Paris, parce que je suis allé quand même au Conservatoire, au CNSM. Bon, ils m'ont viré, mais je suis quand même resté 2 ans.
Pourquoi ils vous ont viré ?
Parce que je suis parti jouer en Chine au moment des examens, enfin bon, une histoire un peu complètement administrative. Et donc, ce qui était génial, le premier truc que j'ai découvert là-bas au conservatoire, c'est que j'avais accès à la médiathèque, et donc je pouvais prendre plein de partitions, plein de disques. Il n'y avait pas encore de lecteur MP3 et de streaming, donc il fallait prendre les disques et les écouter. Je voulais écouter du Ravel, je connaissais pas très bien. Et j'étais tombé sur cette version de Samson François avec l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire. Et ce deuxième mouvement, je l'ai écouté en vacances au bord de la mer, pendant un hiver. Et j'ai halluciné complètement. Je savais pas que c'était un truc ultra célèbre. J'en avais aucune idée. Et je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle, et analysé et joué et improvisé dessus et travaillé, et essayé de comprendre et infuser cette musique-là en moi, tellement je trouvais ça beau.
Alors effectivement, ce qui est très étonnant...
Ans,
16 ans, tout jeune donc. Ouais. En tout cas, ce qui est très étonnant dans ce concerto en sol, surtout dans ce deuxième mouvement, c'est que le piano est seul pendant quasiment 2 minutes 30 et qu'il est en train d'annoncer finalement l'arrivée de l'orchestre. D'une certaine manière, certaines notes nous disent « Attention, bientôt, cette note-là va être prise en relais par la flûte, par l'orchestre qui va arriver. » Et il y a quelque chose de l'ordre de l'illumination.
Oui, c'est un mouvement qui est extrêmement lumineux et qui est à la fois très contemplatif et pudique, et en même temps qui dit beaucoup, beaucoup d'amour, je trouve.
Beaucoup de silence aussi dans les mains de Samson François, qui interprète donc cet Adagio assai du concerto en sol majeur de Ravel. Un extrait de ce concerto en sol majeur de Maurice Ravel, l'Adagio assai, interprété par Samson François au piano, et qui nous emmène effectivement dans la magie d'une musique un peu qui va vers le jazz finalement.
Ah oui, complètement.
Harmoniquement, vous analysez très bien la musique. Vous disiez qu'il y a des sortes d'épices musicales qui s'opèrent, ouais, comme dans le jazz.
Complètement. En termes d'harmonie, on est très proche du langage du jazz. Alors, je sais pas lequel a influencé l'autre, mais c'était à une époque où je crois les musiciens de jazz découvraient beaucoup ça, et les musiciens de classique découvraient beaucoup le jazz aussi. Ça communiquait bien, et les uns étaient fascinés par les autres. Et moi, ça me plaît beaucoup. On marche un peu sur la frontière entre les deux. Et j'adore ça.
Ah oui, visiblement, vous adorez ça.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Et oui, Thomas Enko, je disais que vous adoriez ça parce que, en effet, vous marchez sur la frontière entre les deux musiques. Vous y parvenez merveilleusement dans ce disque sorti chez Deutsche Grammophon qui s'appelle Funambule, dans lequel vous jouez avec Vassilena Serafimova qui,
Serafimova.
Je me suis entraînée avant l'émission. Je me suis dit, faut pas que tu te trompes.
Mais pas dyslexique. Vous dites bien mieux que beaucoup de gens. En fait, pas.
Tant mieux. Alors, racontez cette histoire parce que elle joue au marimba, oui. Ouais. Percussion également. Ça fait 7 ans que vous vous connaissez. C'est grâce à quelqu'un.
C'est grâce à quelqu'un de très important dans ma vie, Gisèle Magnan, qui est devenue ma prof de piano quand j'avais 14 ans, qui l'est restée toujours en fait. Ma prof de piano classique, qui est merveilleuse, qui a été aussi une merveilleuse concertiste, et qui depuis un peu plus de 10 ans a fondé les Concerts de Poche, dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Organisme qui organise des concerts et avec un lien social extrêmement fort pour aller vraiment vers les nouveaux publics partout en France maintenant. Et j'ai eu la chance d'être un des pionniers des Concerts de Poche parce que depuis 10 ans, en fait, je la connaissais déjà, je prenais déjà cours avec elle et puis elle me faisait faire certains de ces concerts-là quand ça débutait. Et un jour, il y a 7 ans et demi, du coup, elle me contacte pour me parler d'une percussionniste classique bulgare qui est en France depuis pas très longtemps, qui est merveilleuse et avec qui elle a envie que je fasse un concert. Alors moi je lui ai dit, mais moi je suis pianiste de jazz, j'adore le classique, mais les percussions classiques je connais pas, le marimba je connais pas. Est-ce qu'elle parle français au moins? Parce que le bulgare, moi, bon, voilà.
Fermez puis... le petit Enko.
Intrigué. Et elle lui a dit la même chose à elle, et puis elle m'a dit non, mais écoute, ça va être super, je sais pas, je sens que ça peut être super. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a au moins du répertoire écrit pour ces deux instruments, le piano et le marimba? Elle m'a dit, je crois pas, cherche. Alors j'ai cherché, il y en avait pas. Donc elle m'a dit, de toute façon, le concert est déjà prévu, c'est dans 6 mois, en mai, c'était en mai 2009. Donc contactez-vous et puis faites-nous quelque chose. Et donc on s'est contacté, on s'est rencontrés du coup en mars 2009. Et les idées ont fusé absolument tout de suite. C'est une jeune femme merveilleuse, hyper talentueuse, qui fait sonner cet instrument comme je l'ai jamais entendu par quiconque d'autre.
Et ça s'entend très bien, parce que c'est vrai que quels que soient les morceaux interprétés dans ce disque, hein, que ce soit vos compositions ou bien des airs traditionnels bulgares ou bien Bach ou encore Mozart, là on va écouter le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, l'Aquarium, où c'est une illustration parfaite de cette complémentarité. Vous êtes distribué en quelques mots la parole comment, Thomas Enko?
Sur cet Aquarium, ouais. Du Carnaval, alors là on a essayé de garder la structure, c'est-à-dire la carrure et la structure harmonique du morceau original. En revanche, à part quelques notes du thème, on improvise absolument tout, parce que malgré le fait qu'elle soit musicienne classique, elle improvise à sa façon, qui est vraiment hyper intéressante. Et surtout sur ce morceau-là particulièrement, ce qui n'est pas le cas du reste de l'album, on a préparé les instruments. C'est-à-dire que moi j'ai mis dans le piano de la pâte à figues,
oui,
du scotch.
On entend bien qu'il ne sonne pas normalement votre piano. Une pièce qu'on connaît tous, hein, en deux parties, féerique totalement magique, avec cordes et flûtes normalement pour évoquer le fond marin. Ici c'est réduit à 2 instruments et la magie opère tout de même. Aquarium du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Interprétation très ludique par Thomas Enko et Vasilena Serafimova, au marimba, très très original. Le disque est plein de belles surprises. Alors on va poursuivre dans vos goûts musicaux. J'ai bien aimé aussi à cette question, quel compositeur préférez-vous, Thomas Enko? Vous n'avez pas su choisir, ce qui est très sympathique. Et puis finalement, votre dévolu était sur Brahms. Et du coup, je me suis dit, puisqu'il aime Brahms et Brad Meldo, si on écoutait Brahms par Brad Meldo, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ah, bah, d'accord.
Alors Brahms, pourquoi vous l'avoir choisi?
Parce que
finalement, parce que ça a été dur pour vous.
Ça a été dur de choisir, mais c'est vrai que depuis quelques années, je suis vraiment hyper attaché au compositeur romantique allemand et notamment à Brahms. Je sais pas très bien expliquer, mais je suis toujours extrêmement ému avec sa musique et il y a quelque chose de complètement sublime, grandiose et en même temps très humain, très fragile, très proche. Je découvre petit à petit, parce que ma culture, que ce soit en classique ou en jazz, a vraiment des trous que j'essaie de combler petit à petit. Et ça fait pas si longtemps que ça que je découvre la musique de chambre de Brahms. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Théâtre des Champs-Élysées pour écouter une intégrale d'Équateur avec piano qui était de Brahms, qui était complètement génial. Et voilà, ça m'est arrivé plus souvent de pleurer avec Brahms qu'avec d'autres.
Alors peut-être allez-vous pleurer avec ce pianiste qui, comme vous, aime bien jouer de temps en temps de la musique classique, y compris dans ses disques. Un intermezzo de Brahms, composé en 1878, je vous propose le quatrième, et qui est dans l'esprit d'une romance, interprété donc par le pianiste de jazz, Brad Meldo. L'intermezzo en si bémol majeur, opus 76, numéro 4 de Johannes Brahms, interprété par Brad Meldo. Brad Meldo, musicien de jazz qui, bien sûr, s'entraîne, joue du classique. Vous, Thomas Enko, je ne sais pas dans quel sens ça va, s'il y a un sens d'ailleurs que vous tenez. En tout cas, j'avais bien envie de vous entendre parler de Brad Meldo, parce que visiblement, c'est un pianiste qui vous plaît beaucoup, que vous écoutez beaucoup.
Ouais, c'est un pianiste qui compte beaucoup pour moi depuis que je suis ado aussi. J'ai découvert dans la série des albums Art of the Trio, qu'il faisait dans les années 90. Et J'étais devenu complètement fan et ça ne s'est pas arrêté. En fait, c'est un des rares musiciens qui vraiment... en fait, à chaque nouveau projet qui sort, je suis assez fasciné. Puis je vais le voir dès que je peux en concert. Et à chaque fois, je trouve qu'il trouve des nouvelles choses, qu'il va encore plus loin, qu'il est de plus en plus fascinant. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de passionnant à suivre, à étudier.
Qu'est-ce qu'il a de plus fascinant pour vous, Thomas Enko?
Plein de choses. Bah, déjà, pianistiquement, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Donc, d'un point de vue purement
technique.
De pianiste, ouais. Voilà, technique, d'indépendance, etc., c'est quand même vraiment génial et très, très impressionnant. Mais bon, ça, à la limite, c'est presque un détail, parce que moi, c'est plus dans l'improvisation, en fait, dans la construction des formes, on dirait, surtout quand il joue en solo, ça me fascine. On dirait qu'il construit des sortes de cathédrales immenses, et puis très souvent, ça m'arrive quand je le vois en concert, à un moment, à un point culminant, je me dis « Waouh !» Là, il va fermer la parenthèse où il va revenir, il va faire redescendre le soufflet parce qu'il est arrivé... Enfin, c'est ce que je ferais moi, en tout cas. Et puis, pas du tout, en fait. Il continue, il va encore plus loin. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il va se casser la figure, c'est pas possible. Et en fait, non. Et ça continue. Et donc, il va encore plus loin que ce que je pourrais imaginer. Et c'est très, 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 très beau. Alors et j'ai eu la chance de le rencontrer pas mal de fois. Et on a échangé souvent sur la musique. Et même ce qu'il dit, ce qu'il raconte est toujours d'une profondeur assez, assez abyssale et en même temps éclairée. C'est vraiment très, très inspirant.
Un vrai modèle. Brad Meldow, alors je vous propose qu'on écoute un coffret qui est sorti chez Nonesuch Records cette année, 10 ans de solo en live. C'était ce qu'on écoutait à l'instant, venait de ce coffret. On va écouter la Waltz for JB, que vous devez connaître sans doute, qui est un des morceaux références de Brad Meldow, composé par lui et interprété par lui tout de suite pour vous, Thomas Enko. Thank you. Waltz for JB, John Bryan, par Brad Meldo, une composition de Brad Meldo, extrait de ce coffret magnifique que vous écoutez en boucle, je crois, Thomas & Co, Brad Meldo, 10 Years Solo Live. Un inspirateur, c'est possible, oui, d'écouter des pianistes de jazz pour s'inspirer et trouver soi-même sa voix, Thomas & Co.
Bien sûr, moi j'ai jamais eu vraiment de complexe par rapport au fait d'être inspiré par d'autres, enfin, c'est absolument normal. Et puis, j'ai jamais spécialement cherché à trouver ma voix non plus. Je pense que ça se fait naturellement en suivant ses instincts, en essayant d'être le plus en accord possible avec qui on est à l'intérieur, avec ce qu'on aime, sans trop écouter les avis extérieurs finalement.
Si vous êtes libre, vous irez le voir à Jazz à Vienne le 7 juillet.
J'y serai pas malheureusement.
Ah, dommage. Bon, bah écoutez, en tout cas pour les autres, Jazz à Vienne en Isère, le 7 juillet, Brad Meldo, il faut aller le voir en concert. Vous êtes d'accord?
Ah, bah oui, c'est une expérience carrément psychédélique.
France Inter. Vous avez dit classique? Elsa Boublil.
Thomas & Co, on va écouter un dernier extrait de votre album Funambule, sorti chez Deutsche Grammophon. Je disais tout à l'heure, je vous moquais un petit peu, deux petits chaperons rouges, vous avec Vassilena Seremfimova. C'est ça, je l'ai bien dit.
Ouais, c'est bon.
En couverture, on sent une amitié longue et puis et beaucoup d'engouement. On va écouter la Eclipse qui ouvre cet
D'accord.
album, qui est une de vos compositions.
Ouais.
Qu'est-ce que vous aviez envie de nous faire entendre dans cette Eclipse?
En fait, moi j'ai toujours été passionné par le ciel, par les étoiles et tout ça. Quand j'étais petit, j'avais plein de bouquins sur les étoiles, l'astronomie, tout ça. Et en fait, j'ai attendu très longtemps avant de m'acheter mon premier télescope. Et je l'ai fait au mois de septembre dernier, la veille de mon anniversaire. Et c'était aussi la nuit de la fameuse éclipse de lune avec la lune rouge énorme qu'on a vue très très bien depuis la France et depuis Paris. Et voilà, j'avais acheté le télescope la veille et j'ai passé la nuit sur le toit de chez moi à Paris à regarder ça, et c'était complètement fou. Et puis ça correspondait aussi, parce que éclipse c'est aussi une métaphore pour dire qu'on s'en va ou que quelqu'un s'en va, et ça correspondait à ça aussi dans ma vie.
Encore,
oui, bah oui, mais ça arrive souvent.
Une rupture, c'est ça?
Ouais. Et voilà, Eclipse.
Eclipse, donc, où on vous entend, c'est une interprétation, enfin, c'est encore une improvisation, comme...
Ah, c'est un thème quand même très écrit, une mélodie très écrite, et vraiment arrangée pour le piano et le marimba, avec deux petits passages improvisés à l'intérieur.
D'accord. Alors, on vous retrouvera en duo à Cluny samedi prochain, ouais. Pour ceux qui ont aimé le disque. En attendant de savoir vraiment s'ils ont aimé le disque, je propose qu'on écoute un dernier extrait de cet album, avec ce titre que vous avez composé, qui est magnifique, et qui s'appelle Eclipse.
Merci. Thank you.
Eclipse, signé Thomas & Co. avec Thomas & Co. au piano, Vasilina Serafimova au marimba. Un album qui s'appelle Funambule et qui est sorti chez Deutsche Grammophon. Magnifique album. Donc pour les entendre tous les deux jouer en duo, ils seront samedi à Cluny. Demain, vous jouerez en solo, Thomas & Co. Oui. À Chemillé en Anjou. Les 24 et 25 juin, vous serez en trio au Duc des Lombards à Paris. Et le 6 juillet, pour les Suisses et ceux qui aiment le festival de Montreux, vous jouerez en solo, donc le 6 juillet. Plein de dates hein, qu'on peut retrouver sur le site de franceinter.fr à la rubrique « Vous avez dit classique ». Un très beau disque aussi. Vous avez envie de continuer dans ce sens des finalement, tout simplement, offrir ce que la musique vous offre aussi à vous?
Oui, bien sûr. Et puis en plus, je vais avoir l'occasion l'hiver prochain de faire mes débuts en concerto. J'aurai de concerto de Mozart, de Gershwin et j'en écris un, aussi un concerto pour piano.
Eh ben, on a hâte d'avoir la suite. Merci beaucoup, Thomas & Co.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe de Vous avez dit classique et merci à Antoine Gomez à la technique. Demain, nous recevrons le grand batteur de jazz que vous connaissez tous, Daniel Humer. Salut Charline Van Hoenacker.
Bonjour Elsa Boublil.
Vous êtes avec Arnaud Vivian, vous?
Oui, tout à fait. Donc, vient nous parler de Charles, bien sûr, la revue qu'il dirige. On va parler donc politique et littérature.
Eh ben, très belle émission.
Ciao. Merci Elsa.